Bonjour, bienvenue sur Mediapart, dans notre émission Science Friction, que nous consacrons aujourd'hui à la controverse scientifique sur l'origine du SARS-CoV-2, ce coronavirus identifié en Chine en décembre 2019 et qui, en quelques semaines, a mis le monde à l'arrêt. Dans les premiers temps de l'épidémie, la thèse de la zoonose, une origine naturelle du virus, semblait faire l'unanimité dans la communauté scientifique. Ce coronavirus aurait réussi un saut d'espèce d'une chauve-souris par l'intermédiaire d'un autre animal qu'il s'agissait de trouver. Mais très vite, d'abord à bas bruit, des scientifiques ont mis en doute cette thèse. Leurs premiers doutes sont nés de deux constats assez simples. Le premier est que la ville où a émergé ce virus, Wuhan, est probablement le plus grand centre mondial de recherche sur les coronavirus. Le deuxième est que ce SARS-CoV-2 s'est révélé immédiatement très adapté à l'homme. Puis les indices se sont accumulés, accréditant la possibilité d'une fuite de laboratoire. Depuis un an et demi, une grande enquête scientifique mondiale est menée par des scientifiques, des ingénieurs, des data scientists qui se sont regroupés souvent par les réseaux sociaux et ont constitué des groupes de recherche informels, comme Drastic ou le groupe de Paris. Je reçois aujourd'hui Brice Perrier, bonjour, qui est journaliste scientifique indépendant, auteur du livre « Aux origines du mal » chez Belin. Brice, vous racontez par le détail cette contre-enquête. C'est un ouvrage scientifique, pointu, mais j'encourage vraiment nos spectateurs à s'y plonger parce que c'est un véritable thriller, il se lit d'une traite. Je reçois également Gilles de Maneuf, qui est data scientist et ingénieur français installé en Nouvelle-Zélande. Et vous faites partie de ce groupe informel de chercheurs baptisé Drastic, à l'origine des principales révélations qui donnent de plus en plus de consistance à la thèse d'une fuite de laboratoire. Brice, ma première question est assez large, c'est quand est-ce que vous avez commencé à enquêter sur l'origine du virus et pourquoi avec quelles aides en fait? Et peut-être on peut dire un mot tout de suite d'Étienne de Crolly. Hein.
Oui, bah parce que c'est un peu à cause de lui en fait. Hein. Il y a environ un an, il a fait paraître une interview dans le journal du CNRS où il appelait en fait à traiter sérieusement la question des origines sans exclure aucune hypothèse, donc en incluant aussi celle d'une fuite accidentelle de laboratoire, d'un virus naturel, voire pas naturel parce qu'il aurait été travaillé. Et donc bah, c'était un peu une sorte de pavé dans la mare, hein, cette interview, parce que depuis la sortie de l'apparition du virus, et notamment un papier dans le Lancet qui avait estimé que dire que ça venait d'un virus que c'était un virus travaillé, c'était une théorie du complot. Donc c'est un peu ça qui avait fait la pensée dominante durant toute l'année 2020. Et quand de Crolly fait cette interview, bah moi ça m'interpelle. Et donc je le contacte et je discute avec lui, je vois pourquoi est-ce qu'il dit ça. Et ben, j'ai l'idée de faire des papiers, mais les journaux avec qui je travaille refusent de faire des papiers là-dessus. Et je discute avec Olivier Rocassens, qui est mon éditrice, avec qui j'avais d'autres projets. Et je lui dis que ça serait peut-être bien de faire quelque chose avec Étienne de Crolly, parce que ça m'arrive de faire des livres avec des scientifiques ou des médecins. Et là, on lui propose, et lui, il a pas le temps, en fait, de travailler sur un bouquin. Donc Olivia me dit, bah vas-y, enquête-toi et fais-le livre-toi. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti.
Et donc, vous avez suivi pendant plusieurs mois une enquête qui était en cours, hein, où les révélations n'ont cessé d'arriver. Et d'ailleurs, elles continuent, hein, c'est ça. Donc c'est...
Bah déjà, j'ai commencé par me mettre à jour. Mm-hmm. Sur Internet, hein, c'était une période de confinement, donc sans bouger de chez moi. Et j'ai trouvé, en fait, énormément d'informations, notamment sur un site américain qui s'appelle USRTK, qui recensait en fait des articles scientifiques, des articles de presse, et j'ai été très étonné de voir que il y avait une quantité d'informations qui n'avait absolument pas filtré en France. Et donc bah je l'ai accumulé, et après j'ai contacté pas mal de scientifiques pour mener un peu mon enquête à moi, quoi. Et voilà, ça a amené le bouquin.
Ok. Gilles de Maneuf, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est constitué ce groupe Drastic? Je crois qu'il s'est constitué sur les réseaux sociaux, hein, par des chercheurs, des scientifiques du monde entier qui s'interrogeaient et qui se posaient à peu près les mêmes questions.
Cela a commencé en fait de manière assez un petit peu, je dirais très progressive. Ça a commencé dès mars-avril 2020, quand les premiers, je dirais, scientifiques qui vont rejoindre le groupe Drastic ont commencé à faire un peu de recherche de l'autre côté. Donc, il y a des noms assez connus à l'intérieur du groupe Drastic. Il y a Yui Deigin, Rosanna Segreto, The Seeker, qui est un anonyme indien, qui dès mars, avril, mai 2020 se sont penchés en fait sur l'origine de ce virus. Ils ont commencé par regarder un petit peu, analyser ce qu'on connaissait du virus, les séquences qui avaient été publiées par Xi Zhengli et par d'autres scientifiques chinois, ce qui nous a amené rapidement dans une sombre histoire en fait de mineurs qui sont décédés en 2012 en travaillant dans une mine du Yunnan. C'est une histoire qui est en fait qu'il a fallu complètement aller extraire hein, au forçat parce qu'il y avait très très peu de choses, très peu d'informations. Mais en fait, Yuri, Rosanna et The Seeker, grosso modo, sont arrivés à remonter tout cela. Ils ont découvert, donc le Seeker a découvert des thèses qui nous donnaient en fait exactement les cas, ce qui s'était passé dans cette mine. Et donc des trois mineurs qui sont morts dans cette mine après une maladie qui ressemblait déjà beaucoup à SARS-CoV-2. C'était sans doute pas SARS-CoV-2, c'était quelque chose, c'était un SARS-CoV, sans doute assez proche. Mais bon, le diagnostic, qui était un diagnostic fait par un des meilleurs en fait scientifiques chinois sur le SARS, c'était sans équivoque. Tout en allant rechercher cela, le plus troublant, c'était effectivement de devoir extraire l'information en force, mais aussi c'était les contradictions et les zones d'ombre dans la version officielle.
Et juste pour bien expliquer, l'équipe de Zhang Lixi du Wuhan Institute of Virology avait communiqué les séquences du virus le plus proche du SARS-CoV-2 et dit publiquement qu'effectivement ce virus venait du Wuhan, d'une mine. Mais vous avez, ce groupe drastique a donc est allé chercher, et vous allez peut-être nous expliquer comment, des thèses d'étudiants qui ont montré que dans ces mines étaient tombés malades des ouvriers qui venaient, je crois, collecter de la fiente de chauve-souris.
Il ne disait pas que ça venait d'une mine, justement. Il disait que ça venait de la province du Yunnan, mais il donnait aucune explication sur la provenance exacte, en fait.
Donc, le gros problème, c'est que normalement, on s'attendrait à beaucoup de choses dans cela. On s'attendrait d'abord à ce que les cas aient été reportés en 2012, parce qu'ils ont, la Chine avait une obligation de reporter cela, en fait, à l'OMS. Et en fait, on sait maintenant qu'il avait reporté aux hôpitaux locaux, mais que ça n'avait jamais été reporté à l'OMS. Mais il y a beaucoup de contradictions dans toute cette histoire. Même le nom du virus a changé entre-temps. L'histoire de ce virus, savoir quand il avait été séquencé, pas séquencé, tout cela est très contradictoire. À chaque fois, on est obligé en fait de forcer Xi Jinping à essayer de nous donner un peu plus d'informations. Et cela a été fait sur des mois et des mois.
Peut-être faut-il dire que Zhang Lixi est la directrice du One Institute of Virology et sa voix, dans les médias internationaux et dans les revues scientifiques. Peut-être qu'on peut évoquer la deuxième révélation drastique, c'est ces bases de données qui de séquençage qui décrivent les séquences de virus de coronavirus qui ont été mises hors ligne à l'automne 2019.
Oui, alors c'était une découverte en fait d'un spécialiste des données anglais qui nous a contactés, Charles Small, et qui en fait nous a montré tout de suite qu'il y avait un problème et que toutes les bases de données de l'Institut de Wuhan, de virologie de Wuhan, étaient en fait n'étaient plus accessibles. C'est quand même assez gros parce que ces bases de données ont été financées en partie par l'Europe et par les États-Unis aussi. Elles sont essentielles à la recherche parce que, puisque quand même le Wuhan Institute of Virology est le centre mondial de ce type de recherche. Donc ces énormes bases de données, hein, on parle de taille énorme. Il y a 16 bases de données qui sont des versions un peu différentes, avec des manières de regarder un peu différentes de données. On parle de terabytes en fait de données, hein, c'est énorme. Toutes ces 16 bases de données sont tombées les unes après les autres. On peut plus les accéder en fait hors de l'institut. Et la date où la base la plus importante est tombée en fait a été enlevée d'accès était le 12 septembre 2019. Ce qui est assez surprenant. Le plus étonnant, c'est que ben voilà, elles n'ont jamais été remises en ligne. Non, dans tout ce débat, ça fait quand même maintenant 2 ans, plus de 2 ans que ces bases de données ont été enlevées et elles ne sont toujours pas en ligne. Et personne ne dit rien. Même l'Europe qui les a financées en partie ne dit rien en fait sur cela, ce qui est assez étonnant.
Ok, peut-être qu'on peut dire un mot du projet de Fuse. C'est la dernière révélation de Drastic il y a quelques semaines. Donc vous avez mis à jour, et là je reviendrai après sur Brice pour décrire cette personne, Peter Daszak. Vous avez mis à jour un projet de une demande de financement en fait par le One Institute of Virology et une organisation américaine qui s'appelle EcoHealth Alliance, qui est dirigée par un zoologue, écologue britannique qui s'appelle Peter Daszak. Et ce projet de recherche décrit assez exactement en fait la création d'un coronavirus dans lequel on insérerait ce qu'on appelle un site furine qui permet une meilleure liaison entre le coronavirus et les humains. Et donc ce projet qui n'a pas été financé par les Américains parce qu'il a été jugé trop dangereux est un élément très important de votre enquête, hein.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une parmi tous les travaux, toutes les révélations en fait de Drastic, c'est sans doute une des plus importantes parce qu'en fait, elle a exposé énormément de contradictions et de mauvaise foi. Elle a montré en fait que malgré tout ce que Peter Daszak et d'autres scientifiques ont pu un peu dire, il y avait des plans et même des projets pour insérer donc un site de clivage furin cleavage site, dans des backbones, dans des virus, pour en étudier effectivement les caractéristiques et voir si cela les rendrait potentiellement beaucoup plus dangereux. Donc l'idée était d'aller, de réaliser le pire cauchemar que l'on pourrait avoir dans un cas d'une zoonose, une évolution naturelle du virus. L'idée était donc de pouvoir réaliser ce pire cauchemar pour pouvoir, dès le début, ou avec de l'avance, étudier en fait des traitements ou mettre au point des vaccins. Donc, et ça, c'est tout à fait la philosophie des EcoHealth Alliance et du gouvernement américain, financé par le NIH, financé par DARPA, le département de la défense américain. C'est en fait d'aller au-delà et de créer ce pire cauchemar et dès le début d'avoir déjà les ressources et les armements pour pouvoir l'arrêter si un jour il apparaît de manière naturelle. Et ce qui était très embêtant, c'est que tout au long, pendant un an et demi, Peter Daszak n'a jamais révélé en fait qu'il avait fait une telle proposition, hein, et que donc le One Institute of Virology avait un certain intérêt à réaliser ce pire cauchemar, je dirais, de virologie.
Je vais me tourner vers vous, Brice, pour parler de Peter Daszak, ce zoologue britannique, à la tête de cette organisation EcoHealth Alliance. Donc c'est lui qui a quand même, dès le début, donné le tempo en fait du discours scientifique sur l'origine du virus. Vous pouvez nous raconter ça, ce premier édito dans le Lancet.
Tout à fait, sans montrer que c'était lui en plus. C'est là où c'est quelqu'un qui est un peu fourbe, ou je sais pas, ou en tout cas qui manigance, quoi, parce qu'il a, dès le début du mois de février 2020, il a écrit une tribune qu'il a envoyée à différents virologues ou scientifiques pour leur dire qu'il fallait qu'ils la signent ensemble, et une tribune, en fait, qui discréditait l'hypothèse d'un virus non naturel ou travaillé en laboratoire en disant que c'était une théorie du complot. Ce qui est un argument scientifique absolument nul, mais c'est passé, cette tribune est passée dans le Lancet le 17 février, je crois, avec 27 scientifiques, dont Peter Daszak qui était dedans. Mais grâce à l'association UHRTK, dont je parlais tout à l'heure, on a découvert qu'eux, ils utilisent le droit à l'accès aux données américain qui leur a permis de récupérer tous les mails de Peter Daszak et des EcoHealth Alliance. Et on a vu, en fait, ces manigances où il envoyait des mails à ces gens leur disant « C'est nos amis chinois, en gros, qui sont attaqués, il faut qu'on les défende, c'est pas possible. Mais par contre, il faut pas que EcoHealth Alliance ou moi, j'apparaisse, donc il faut que ça soit une tribune, en gros, une sorte de consensus scientifique. » Et cette tribune est parue, elle a eu un écho mondial, c'est le Lancet, et donc c'est devenu, ouais, le consensus scientifique, c'est le virus est forcément naturel. Et ça a été suivi un mois plus tard par un article de Christian Andersen, Edouard Holmes et quelques autres virologues qui se trouvent, travaillent pour la plupart avec la Chine aussi, et qui eux ont posé une sorte aussi de postulat de dire que le virus était forcément naturel, parce que si en gros s'il ne l'était pas, ça se verrait, on ne voyait rien. Et des arguments qui étaient très faibles, qui étaient un article d'opinion, mais qui avait fait aussi la doxa, qui a fait la pensée dominante. Donc vous avez le truc du Lancet qui dit dire que ça vient d'un labo, c'est du complot, et la nature qui vous dit c'est forcément naturel. Et ça, bah, c'est ce qui a été répandu, et en fait, on voit que ce sont des gens qui sont tous en relation. C'est un petit milieu qui travaille avec des fonds américains, avec des Chinois, et qui ont voulu discréditer cette hypothèse, et qui ont bien réussi jusqu'à encore il y a peu, quoi.
Et ce que vous racontez dans votre livre, c'est que les premiers scientifiques qui ont voulu mettre en doute cette thèse, et dans quelque chose de très sain, une controverse scientifique, eux ont vu leurs articles retoqués dans les grandes revues.
Bah, retoqués ou refusés, en fait. Toutes les réponses qui ont été faites, aussi bien au Lancet qu'à Nature, ont été refusées de publication. Et il y a qu'une revue, en fait, qui a publié d'ailleurs des gens de Drastique, qui sont les premiers à avoir fait des papiers qui mettaient cette hypothèse sur la table, la possibilité d'un virus sorti de laboratoire. Et un virus travaillé, c'est la revue BioEssai qui est la seule au monde en fait à avoir fait paraître des premiers papiers vers août-septembre 2020. Le papier de Yuri Deguin et Rossana Segreto et un papier de Karl Sirotkin et de son père.
Gilles de Manœuvre, vous avez écrit un article dès le début de cette crise pour où vous évaluez la probabilité d'une fuite de laboratoire.
Oui, tout à fait. Donc une des premières contributions que j'ai faites à Drastique était en fait une revue en détail, je dirais, une approche probabilistique pour avoir un peu une idée des probabilités relatives d'un accident de laboratoire ou de recherche et d'une zoonose naturelle. Bon, il y avait les deux hypothèses étaient tout à fait valables, on n'avait pas vraiment beaucoup de données et personne n'avait vraiment fait, je dirais, d'études probabilistiques pour essayer de dire, bon, c'est peut-être 50-50, peut-être que c'est 5-95, peut-être que c'est effectivement ridicule, peut-être que l'hypothèse d'un accident de laboratoire est d'une chance sur 100. Mais bon, personne n'avait vraiment, je dirais de manière propre, essayé d'avoir une approximation de ces probabilités. On n'essaie pas d'avoir, je dirais, des probabilités très très précises, on essaie d'avoir des approximations qui sont qu'on peut défendre, hein, qui soient à peu près convenables. Donc, tout à fait aux alentours de juillet, août, septembre 2020, j'ai fait un papier avec Rodolphe Demestre, qui est un ingénieur français spécialisé de l'ingénierie des laboratoires et des centrales atomiques, d'ailleurs. On a fait un papier sur cela, où, en utilisant des méthodes mathématiques assez avancées et des probabilités bayésiennes, on a tout de suite vu qu'en fait, on ne pouvait pas du tout écarter la possibilité d'un accident. Donc, soit un accident d'échantillonnage sur le terrain, soit un accident de laboratoire, à l'intérieur d'un laboratoire. Et cela est dû, en fait, à l'information qu'on avait à l'époque. L'information qu'on avait à l'époque, c'est qu'en fait, ça avait bien démarré à l'intérieur, en fait, à Wuhan. Et cela, ça pose un problème majeur, c'est que quand ça démarre au pas de la porte, effectivement, une ville qui a 4 ou 5 laboratoires travaillant activement sur ce genre de virus, cela a une valeur mathématique et on peut de manière mathématique essayer d'encadrer des probabilités. Donc ce qu'on a trouvé très rapidement, c'est que de manière très 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 conservative, on était tout de suite à 50-50.
Peut-être qu'on peut dire un mot là-dessus, Brice, juste décrire en fait quels sont les buts de cette communauté scientifique autour de Zinglishi, Peter Daszak. Donc leur but n'est pas évidemment évidemment, il faut le dire, n'est pas a priori de créer des pandémies mondiales. Leur but, c'est d'essayer d'aller chercher des virus dans la nature et d'essayer de les désamorcer. C'est bien ça leur
De les comprendre en fait, de comprendre ce qui pourrait nous arriver. En allant chercher des virus, oui, dans la nature, et en imaginant, plus qu'en imaginant, en travaillant avec, pour voir comment est-ce qu'ils pourraient évoluer, muter, pour avoir les mutations qui vont leur permettre de passer de l'animal à l'homme, et d'être plus infectieux, et de devenir pandémique, en fait. Et c'est là où ils avaient vu que ce site furine, qui est quelque chose qui permet de rendre le virus beaucoup plus infectieux, de se fondre avec les cellules humaines, était un peu une sorte d'arme fatale. Et il se trouve que le SARS-CoV-2 est le premier virus de type SARS à avoir ce site furine, ce qui a interpellé d'ailleurs Étienne de Crolly très vite, mais dont Zinglishi, au contraire, n'a pas communiqué du tout là-dessus. Au contraire, elle avait fait un papier où elle arrêtait son séquençage juste au niveau du site furine, comme si elle voulait le cacher. Alors qu'en fait, EcoHealth Alliance, Zinglishi, mais aussi leurs collaborateurs que sont Ralbarit, qui est le number one au monde sur la recherche de coronavirus de synthèse et de gun function, et Lin Fa Wang, qui est un Chinois qui est basé à Singapour, qui travaille aussi beaucoup avec Zinglishi, eux avaient ce projet Diffuse qui était d'aller chercher ces coronavirus toujours, de chercher ceux qui avaient un acide furine, et si on n'en trouvait pas avec un acide furine, de l'insérer. Et donc, en gros, de créer quelque chose qui ressemblait très fortement à SARS-CoV-2. Et ils se sont bien gardés de le dire quand on en a trouvé un qui correspondait à leurs espérances, en fait.
Ce qui est étonnant aussi dans toute cette histoire, c'est que les chercheurs qui sont spécialistes de ces expériences de gain de fonction, qui visent à faire muter les virus, les rendre plus infectieux, donc on parle de Ralph Baric, qui est vraiment spécialisé sur les coronavirus, mais peut-être qu'on peut dire un mot de Ron Fouché, qui avait tenté de rendre plus infectieux un virus de la grippe en Hollande, qui avait fait un scandale au début des années 2010. Ces chercheurs sont silencieux et aucun ne vous a répondu dans votre...
Oui, tous ceux qui travaillent là-dessus, j'ai eu Lin Fawang, mais Lin Fawang, lui, il m'a dit qu'il travaillait pas là-dessus, qu'il trouvait que c'était très bien de le faire, mais qu'il le faisait pas. Mais c'est vrai que aussi bien Ralph Baric que les Chinois ou que les Hollandais qui sont très pointus là-dessus, oui, le centre de Rotterdam, ne répondent pas. Et c'est un sujet un peu tabou, en fait, parce que à quoi servent ces expériences? Ron Fouché, comme Peter Daszak et Zenglishi, leur but, c'est de créer des vaccins un peu, quand Ron Fouché faisait ses travaux sur la grippe aviaire, c'était avec l'idée de créer le vaccin qui va faire toutes les grippes, qui va permettre de la parade absolue. Et là, il y a aussi l'idée de faire le vaccin qui va parer contre tous les coronavirus. Donc ça, c'est un peu un espoir, c'est presque illusoire, moi, je pense, parce que c'est un peu de se croire trop fort, quoi, de croire qu'on va pouvoir tout contrôler, alors qu'en fait, même si vous prévoyez, vous avez vu que le virus peut muter de telle façon, il pourrait aussi muter d'une autre façon tout à fait différente. Donc, jamais vous pourrez créer la parade ultime. Mais il y a quand même cette idée d'être tout puissant, presque, de créer le virus, le vaccin qui va être la parade face à tous les coronavirus ou toutes les grippes. Et c'est ça qui motive, en fait, ces opérations de gain de fonction. Et en fait, on voit le risque. Parce que le risque d'un virus pandémique, aujourd'hui, on voit bien ce que c'est. Hein. Si vous avez une pandémie, ça fait des dégâts. Par contre, depuis 10, 15 ans que ces travaux se font, des résultats concrets pour trouver justement même des vaccins ou des médicaments, il n'y en a pas. Donc c'est un objectif, mais qui n'est pas concret. Par contre, ce qui est concret, c'est de voir ce que peut faire un virus pandémique. Et quand on en crée un, le risque est forcément là, quoi.
Peut-être qu'il faut évoquer aussi les autres pistes, parce que le débat reste ouvert. La possibilité d'une zoonose, elle a quand même perdu en crédibilité, mais elle est pas exclue. Ce virus peut avoir émergé naturellement, même si on a pour l'instant trouvé aucun élément d'explication dans ce sens-là. Dans votre livre, vous évoquez aussi la piste du vison comme hôte intermédiaire, qui, elle aussi, n'a jamais été explorée, en fait. Ce que vous décrivez, c'est quand même une enquête sur l'origine de ce virus qui est restée bloquée, quoi, qui n'avance pas officiellement.
C'est notamment par Peter Daszak, il a un conflit d'intérêt parce qu'il travaille avec le laboratoire de Wuhan, mais il a aussi un gros conflit d'intérêt parce que son métier, c'est d'aller chercher justement des virus dans cette logique de faire un peu, de collecter et après de travailler pour prévoir l'avenir. Et lui, il parle toujours de faune sauvage. La faune sauvage, c'est la wildlife. Et donc, aller chercher le virus dans la faune sauvage. Alors qu'en fait, les émergences infectieuses de virus, ça passe beaucoup plus par les élevages. Parce que il faut des contacts répétés pour qu'un virus devienne transmissible entre hommes. Si vous allez manger un pangolin ou une chauve-souris qui est infectée, vous allez peut-être être malade, vous allez peut-être mourir, mais généralement, le virus ne sera pas adapté à l'homme, donc il ne passera pas d'homme à homme. Alors que quand vous êtes une infection qui vient d'un élevage, vous allez avoir des allers-retours entre les éleveurs et les animaux, l'élevage est une sorte de bouillon de culture, le virus va pouvoir faire ses mutations qui à force de quelques allers-retours, au bout d'un moment, il sera transmissible entre hommes. Donc, la recherche aurait dû être d'abord sur les élevages. Alors qu'en fait, on a tout dit, les Chinois ont sorti le pangolin, on a tout misé sur la faune sauvage en disant, ce qui en plus est très difficile, parce que la faune sauvage, c'est d'aller chercher un peu petit bonheur la chance dans la nature. Alors que si vous misez sur les élevages, les élevages, on sait où ils sont, on pourrait y aller, ça n'a pas été fait. Si vous misez sur les laboratoires, là aussi, pareil, les laboratoires, on sait où ils sont. Donc en fait, on a mis cette hypothèse de la faune sauvage, qui est la plus difficile à explorer, en négligeant les deux plus, je sais pas si elles sont plus probables, mais en tout cas, elles sont sans doute plus probables, mais qui sont en tout cas les plus faciles à inspecter, quoi.
Juste pour dire un mot des visons, c'est vrai qu'on a constaté au cours de la pandémie que lorsqu'un élevage de visons était infecté, c'était un feu de forêt. Hein. Les visons sont très réceptifs au SARS-CoV-2.
Et ils sont très réceptifs et surtout on a constaté des allers-retours qui faisaient des mutants. Il y a eu les Hollandais qui ont trouvé ça avec des virus danois, des visons danois. On a vu qu'il y avait eu des allers-retours avec un virus qui revenait, qui avait muté. Et ce qu'on a découvert, mais qui n'a non plus pas du tout été bien étudié, c'est que c'est peut-être ce qui s'est passé en Italie, là où le virus a explosé en Europe, avec le premier variant qui vient de là-bas et qui vient d'une zone où il y a une concentration d'élevage de visons. Et on a vu la même chose en Espagne, au mois de juin, avec le deuxième gros variant. En gros, celui qui a fait la première vague et la deuxième vague, eh ben, c'est ceux-là, et qui ont pu être le résultat d'un aller-retour avec des visons. Et ça n'a même pas été respecté ni en Italie, ni en Espagne. Et ce qui donc on accuse la Chine avec raison, parce que la Chine n'est pas transparente, mais les Occidentaux n'ont pas du tout été clairs aussi, par exemple, sur cet exemple-là, quoi.
Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette enquête scientifique, cette controverse scientifique? Est-ce qu'elle peut aboutir à une réponse claire? D'où vient l'origine du virus? Est-ce qu'on s'en est donné les moyens? Est-ce que la communauté scientifique s'en donne les moyens?
Ben jusqu'ici, on s'en est pas du tout donné les moyens, parce que l'enquête qui a eu lieu, enfin, qui n'est pas une enquête d'ailleurs, mais là, c'est la mission qui a eu lieu à Wuhan en janvier dernier, janvier-février dernier, elle était sous le contrôle, en fait, des Chinois qui ont donné leurs données, qui n'ont pas du tout permis une enquête. Et c'est un peu, je termine le livre avec ça, c'est la lettre de ce qu'on appelle le groupe de Paris, dont Gilles fait partie, où il y a Étienne de Crolly, des chercheurs un peu du monde entier, qui ont exigé, enfin, réclamé une véritable enquête, avant même que le rapport de l'OMS arrive, parce qu'en fait, ce rapport, il n'y avait rien à en attendre, vu le contexte dans lequel il avait été fait. Et donc, qui appelait à faire une vraie investigation qui regarde toutes les hypothèses. Donc, ce qui implique d'avoir des gens compétents pour ça, parce que même, par exemple, le responsable de la mission de l'OMS, Peter Mbarek, Ben Mbarek, a reconnu, en fait, qu'il n'y avait pas les compétences pour explorer l'hypothèse du laboratoire. Des choses comme des data scientists, des gens qui sont spécialistes de biosécurité. Et ça, il n'y avait même pas. Donc, là, il y a l'OMS qui est en train de créer une nouvelle équipe. Donc, et d'ailleurs, Gilles en parlera peut-être mieux que moi, mais il faudrait savoir qui va être dedans. Est-ce que là, cette fois, il y aura les compétences aussi au niveau de la biosécurité, au niveau des gens qui pourront explorer la piste du laboratoire avec des bioinformaticiens, ce genre de choses? Ça, c'est pas du tout acquis pour l'instant. Donc, l'équipe est en train de se mettre en place. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'il y ait quelque chose qui se fasse au niveau international, au niveau de l'OMS, parce que là, vous avez dernièrement Biden, qui a repris un peu l'affaire en main, en fait, en disant, en gros, comme Trump, hein, mais avec une audience meilleure, parce que c'est Biden, mais qui a mis ses services de renseignement sur le coup. Et en fait, il a dit, je veux un rapport dans 3 mois, et les services de renseignement américains, c'est pas du tout le cadre adéquat pour une enquête qui soit acceptée par tout le monde. Il faut quelque chose qui soit international, parce que là, les Chinois ont beau jeu de dire, ah ben non, ce que disent les Américains, c'est politique et tout ça, on veut pas que ce soit politique. Donc, il faudrait une espèce de transparence mondiale, avec un contexte cadré par l'OMS, avec les pays qui exigent tous ça, avec tous les laboratoires qui font des coronavirus, des travaux pointus, qui ouvrent leurs données pour que les Chinois puissent pas dire, regardez les autres, parce que les Chinois disent aussi, un laboratoire c'est impossible quand c'est chez nous, par contre, regardez les Américains, eux, ils sont suspects. Donc, si les Américains ouvraient leurs labos, les Hollandais ouvraient leurs labos, tous ceux qui travaillent sur les coronavirus ouvraient leurs labos, leurs bases de données, les Chinois seraient beaucoup plus en difficulté à dire, ah ben non, nous on les ouvre pas, alors que là, on ne demande qu'aux Chinois. Donc, il faudrait quelque chose qui soit vraiment international, cadré, et qui inspecte avec des gens compétents, avec les moyens d'enquêter, et ce qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent, quoi.
Gilles de Manœuvre, peut-être un mot là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette enquête a une chance d'aboutir, et comment est-ce que les choses bougent quand même à la suite de ces nombreuses révélations, et la dernière de Fus qui est quand même un pavé dans la mare?
C'est sûr que les dernières révélations ont changé beaucoup la donnée. Malheureusement, ça ne change pas beaucoup sur le terrain en termes de constitution d'une équipe qui soit capable de faire ce genre de choses. La dernière proposition où les candidats qui ont été retenus pour l'instant pour l'équipe SAGO de l'OMS sont essentiellement des gens qui ont une expérience d'épidémiologie, et il n'y a que 2 candidats qui ont une expérience de biosécurité et de laboratoire. Et en fait, une de ces 2 personnes, et c'est très amusant, une de ces supposés experts en biosécurité dit grosso modo que les laboratoires chinois sont parfaits et que l'idée d'un accident dans un laboratoire chinois est une théorie du complot, grosso modo, quelque chose comme ça. Ce qui est très intéressant, parce que même les experts chinois eux-mêmes, tels que Yan Jiming de l'Institut de virologie de Wuhan contredisent tout à fait cela. Les Chinois, en fait, les experts chinois étaient les premiers en 2019 et 2020 de dire qu'ils avaient d'énormes problèmes de management de la sécurité dans leur laboratoire. Pas dans tous, mais d'une manière générale, des problèmes systématiques de formation, de budget, etc. Il y a même des spécialistes qui ont dit qu'il y a des laboratoires qui n'ont pas de budget de maintenance. Donc c'est quand même un peu délicat. Et voilà, donc dans l'équipe de Sago, pour l'instant, l'équipe qui se met en place, il n'y a pas l'expertise nécessaire pour faire une vraie enquête sur un accident possible de recherche, soit un accident de laboratoire, soit un accident dans d'échantillonnage sur un site. Et c'est très embêtant parce que s'il n'y a pas cette expertise, grosso modo, on repart sur la même chose que l'étude de l'année dernière qui n'a abouti à strictement rien.
Et est-ce que les leçons qui devraient être tirées de cette pandémie, c'est qu'il faut cesser ces expériences de gain de fonction? Qu'est-ce que vous en pensez, Brice Perrier?
C'est une question qui mérite en tout cas d'être posée et qui fait débat dans la communauté scientifique. Alors, pas forcément sous la lumière des projecteurs, hein, mais il y a des scientifiques qui sont prononcés déjà dans les années 2010. Hein, quel est l'intérêt de ces expériences? Est-ce que le bénéfice-risque, de quel côté ça penche en fait, hein? Et c'est une question qui se pose. C'est pas moi qui vais la trancher, hein, c'est sûr, mais c'est quelque chose qui devrait être posé par la communauté scientifique. Et regardez, et après, c'est aussi une question de conditions dans lesquelles ça se fait. Parce que il n'y a pas l'équivalent de l'Agence internationale sur l'énergie atomique pour les recherches en biologie. Alors qu'en fait, le risque est le même, voire plus important. Parce qu'on voit que c'est peut-être encore pire. Hein. Une pandémie, c'est encore pire qu'un accident d'une centrale nucléaire. Donc, c'est clair que ces expériences, à quoi elles servent? Est-ce qu'elles apportent vraiment quelque chose? Quel est le risque? Et donc, il y a une balance à faire. Et ça devrait être un débat qui se pose, mais qui est un peu un sujet tabou en fait dans le milieu de la virologie parce que on a envie de pouvoir travailler et de pouvoir faire ce qu'on a envie et on n'a pas envie non plus que d'être pointé du doigt comme étant des apprentis sorciers ou des dangers publics et c'est ce qui fait aussi que au début quand l'épidémie arrive dans le milieu de la virologie ou des gens qui travaillent sur les infections. Ils voyaient arriver avec plaisir, en fait, la théorie du complot, le forcément naturel, parce que pour eux, c'était mieux que ça vienne d'un pangolin et que ça soit la faute à pas de chance, plutôt que ça soit une erreur d'un de leurs confrères, quoi, ou alors une imperfection dans leur mode de travail. Donc, du coup, naturellement, on allait plutôt mettre ça sous le tapis et puis dire, ah bah oui, forcément, c'est le pangolin, et dire le contraire, c'est une théorie du complot.
Ma dernière question, Brice Perrier, c'est vous êtes quand même assez critique envers les médias qui ont effectivement immédiatement relayé la thèse de la zoonose et que vous trouvez assez silencieux sur la thèse de la fuite de laboratoire. Enfin, on peut quand même dire que la presse écrite, y compris Mediapart, s'est quand même saisie du sujet peut-être avec retard. Mais voilà, comment est-ce que les médias ont fait évoluer aussi leur analyse de cette origine du virus?
Disons que sur l'année 2020, ça a été un peu le sujet qui a été écarté en fait. Hein. À part une petite période qui est assez amusante, c'était juste la mi-avril, après que Trump ait mis un peu un pavé dans la mare, parce que c'était suite à des révélations qu'il y avait de diplomates américains qui avaient fait comment ça s'appelle, un poste diplomatique,
oui.
Un télégramme diplomatique qui alertait sur des risques de sécurité au nouveau laboratoire de Wuhan, le P4. Donc suite à ça, il y a Donald Trump qui a dit oui, mais en fait ça vient de là-bas et qui a mis un peu les pieds dans le plat en disant qu'ils avaient des indices, des preuves, et là,
C'est le virus chinois.
En bluffant un peu. Suite à ça, vous avez 15 jours où la presse s'est un peu intéressée à ça, comme si c'était genre ah ben finalement Trump a peut-être raison, il faudrait quand même qu'on prenne nos précautions, mais avec l'idée que c'était un virus, si ça avait fuité, c'était un virus naturel. Et puis après, comme Trump, il n'y a pas eu de suite, et ben c'est reparti dans la théorie du complot et ça a duré jusqu'à quand vous voyez la mission de l'OMS qui est à Wuhan, qui est relayée tous les jours. Vous avez l'expert numéro un, c'est Peter Daszak, qui est interrogé par tous les journaux. Il n'y en a aucun qui va dire, mais ce type n'a rien à faire ici, parce qu'il a un conflit d'intérêt énorme. Et ça passe, alors qu'il n'est pas du tout discret, qu'il est sur Twitter toute la journée, qu'il répond à tous les médias, alors que la plupart des experts de l'OMS, vous les avez jamais vus, alors que Peter Daszak, c'était celui qui était le bon client pour tous les médias. Et personne ne relevait ça, donc... Bien sûr qu'il y a une légèreté médiatique là-dessus, et d'avoir classé ça complotiste, Et après, bon, ça évolue. Bien sûr que les choses évoluent aussi. Tout n'est pas ni blanc ni noir. Mais il y a quand même eu une lacune médiatique pendant une belle année, quoi. Ça, c'est clair.
Et juste un mot quand même sur Peter Daszak, c'est que effectivement, les médias lui ont donné beaucoup la parole, mais quand il le questionne, les médias le questionnent et il a tendance à soit ne pas répondre, soit répondre à côté. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui...
Ben, ça dépend qui, parce que je vous dis, hein, quand les médias le questionnent à Wuhan, il répond à tout le monde. Hein, et si, donc, il était assez facile. Moi, il m'a jamais répondu.
Voilà.
Moi, il m'a jamais répondu parce que je voulais lui poser des questions qui lui plaisent pas. Mais par contre, il a un accès aux journaux qui était très vaste, quoi. Il avait des tribunes, il écrivait, et je dis, quand il y avait la mission d'Ouane, c'était l'expert le plus interviewé.
Ok. Je vous remercie beaucoup, Brice
merci
Perrier, Gilles de Maneuf. Merci beaucoup d'avoir veillé un peu tard pour nous, de Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle émission de Science Friction.